Tous les dimanches à 17h, CFM vous permettra de participer à une nouvelle émission, Les Sabots d'Hélène. Faites-nous part de vos expériences en matière de rêves prémonitoires, de médiumnité, de télépathie, d'intuition, et ceci en tout anonymat. Hélène, voyante, sera présente pour répondre à vos questionnements sur tous ces sujets. Pour nous joindre ou enregistrer votre témoignage, par téléphone 05 63 67 03 57, par courrier CFM boîte postale 16 82 160 Caylus, ou par mail les sabots d'Hélène, CFM, tout attaché, @gmail.com. Et à dimanche.
Bonjour Hélène.
Bonjour Jean-Val.
Vous ne vous rendez pas compte que quand vous me dites qu'aujourd'hui je vais pleurer avec les témoignages, les sujets que vous allez aborder, moi j'ai très peur.
Normal.
Ah bon.
Normal. Donc aujourd'hui on va aborder un thème un peu particulier, c'est celui des vies antérieures. Alors qui ne s'est pas demandé s'il y avait une vie après la mort et si on avait une autre vie avant celle que l'on vit actuellement.
Ça c'est la métempsychose anthropomorphe.
Enchanté. De nombreuses personnes tentent de retrouver des traces et des bribes de ces passés. On nomme cela régression. Que ces retrouvailles avec un passé oublié s'effectuent par le biais de l'hypnose ou par le biais de relaxation totale, les résultats obtenus sont parfois douteux. Il faut quand même le reconnaître.
Ah.
Et peuvent révéler davantage de la connaissance universelle que de réellement de régression dans les vies antérieures. Mais parfois, c'est également stupéfiant et de précision et de réalité. Donc, il y a quand même énormément de cas qui ont été répertoriés.
Du genre, j'étais pharaon, je me souviens.
Oui,
très
alors ça,
bien.
C'est j'étais Jésus-Christ, j'étais pharaon, j'étais voilà.
Ça, il y en a
rarement, j'étais plombier, hein.
Oui. Voilà. Puis il y en a plein les centres d'internement des Napoléons, non? Enfin, en tout cas, ce qu'on dit dans les blagues.
Oui, voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est un peu différent. Donc, on compte en France plusieurs centaines d'hypnotiseurs, de magnétiseurs ou de radiesthésistes qui pratiquent ce type de régression. Alors, des chercheurs américains se sont penchés dans l'exploration scientifique du phénomène que sont ces régressions de vie antérieure. Partant de ce qu'ils nomment allégation de souvenir de vie antérieure, c'est-à-dire qu'ils nomment pas ça d'office vie antérieure, mais allégation de, puisque c'est une approche scientifique. Ils enquêtent sur la vie des témoins et cherchent, mais alors de façon extrêmement pointue, et cherchent à vérifier la véracité des faits rapportés. Le professeur Ian Stevenson, directeur de recherche à l'université de Charlottesville en Virginie, est un des pionniers en la matière. Alors ça fait une trentaine d'années que ce neuropsychiatre accompagné de son équipe traque tous les témoignages en l'occurrence. Les témoignages sont pour le moins troublants et les plus troublants c'est ceux de jeunes enfants de diverses régions, divers pays dans le monde entier qui évoquent spontanément des événements, de lieux, de gens qui semblent avoir aucun rapport avec leur vie actuelle. Ça vous avez déjà dû en entendre parler, Joanne. Oui.
Oui,
il est deux lignes de la tête en acquiescence, c'est extraordinaire.
Je lis, il y a des revues que je feuillette dans les salles d'attente des médecins ou des dentistes, donc il y a des trucs dont j'ai entendu parler, oui.
Voilà, donc certains enfants insistent même pour retourner dans leur ancienne demeure. Stevenson, sur plus de 2000 cas étudiés par ce professeur, le professeur Stevenson a publié une vingtaine de cas, dont l'examen scrupuleux, vraiment pointu, faisait apparaître que ces enfants avaient une connaissance précise et inexplicable de la vie des personnes décédées ou non, qui sont décédées quelques années avant que lui naisse, en fait. Parfois dans un autre pays que le leur. Et dans ce cas, ils furent exclus de toute hypothèse de pathologie ou d'affabulation, de je suis Napoléon, etc. C'est vraiment des faits très très précis. Ainsi, il conclut que ces cas suggèrent des phénomènes de réincarnation. Il suggère des phénomènes de réincarnation, c'est quand même un scientifique. Voilà. Donc, dans la série des exemples, en Inde, un enfant du nom de Swarta Mircha chantonnée très naturellement en Bingi, un des multiples dialectes de l'Inde, alors que dans sa famille, on ne parlait que le Hind. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, excusez-moi, je ne parle pas indien. Et personne ne lui avait jamais appris ni les paroles de cette chanson, ni cette langue, en fait. Et très spontanément. Et un peu partout dans le monde, des enfants en bas âge racontent à leurs parents qu'ils ont déjà vécu dans une vie avant. Et ça commence très tôt, en fait. Ça commence très très tôt.
Mais au Tibet, on recherche le nouveau...
La réincarnation de la personne.
La réincarnation du Dalai Lama, à chaque fois qu'il en disparaît un, on le cherche. Comme si l'âme s'était évaporée et était retombée sur un nouveau-né, puis bon, il fallait le chercher, quoi.
Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas de traçabilité.
Voilà, bah, dans toute la religion hindouiste, de toute façon, la réincarnation est un fait acquis. Hein.
Ben là, je parle du bouddhisme. Hein.
Oui, mais dans l'hindouisme aussi.
D'accord, la balle au centre.
La balle au centre, un point partout. Alors donc, en effet, dès qu'ils sont en âge de parler, vers 2 ou 3 ans, donc vraiment très très tôt, l'enfant dit qu'il a déjà vécu ailleurs, à une autre époque, sous un autre nom et avec d'autres parents.
À l'école de baigne et au lit à manger.
C'est souvent ça, malheureusement. Parfois, l'enfant veut même qu'on utilise son nom, son ancien prénom. Il décrit son ancienne maison, parle de différents membres de sa famille en précisant les professions, certains détails de leur vie familiale ou des faits relatifs à leur vie, des faits relatifs à l'environnement, des choses donc très très précises. Description d'endroits, de personnes, de noms, voilà. Et étant donné que les récits se répètent, parce qu'en général, les enfants, quand ils ont un marteau, ils ne lâchent pas.
Mais ça, c'est surtout dans les pays où on désinfecte les biberons avec du calvados, non ?
Non, pas du tout, non. Non, 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 ça, c'est, je connais ça qu'en Normandie, mais vous n'êtes pas d'origine normande. Ça va, je vais mettre les Normands à dos. Donc, les récits... Se répète et les enfants donc manifestent le désir de se rendre dans la ville où il dit avoir vécu. Donc les parents, à un moment donné, finissent par lâcher et finissent souvent par aider l'enfant à aller dans cette ville, afin également pour eux-mêmes de vérifier si le personnage qu'ils prétendent être a effectivement vécu, s'il y a une réalité, une véracité dans ces faits. Voilà.
Alors t'imagines un homme de 3 ans qui dit « Je sais où est le trésor !» Là, ils y vont les parents, non ?
Non, mais là, c'est, en l'occurrence, c'est pas forcément un trésor. À moins qu'il en ait caché un dans une vie intérieure, ça pourrait être intéressant.
Ben oui.
Ça pourrait être sympa. Mais non, c'est pas le cas. Ces dires sont confirmés par ses anciens parents, très souvent, s'ils sont encore en vie, ou par des membres de la famille, en montrant des photos, en retraçant des événements familiaux qui, en effet, concordent avec les dires de l'enfant.
Alors, et puis, ça lui passe, non ? Après, à l'âge de raison, il n'en parle plus.
Généralement, après, il y a...
Il y a des études, oui, je pose des questions comme si c'était
absolument
intéressant.
Oui. merci, Johan. Tu me la refais quand tu veux, celle-là. c'est évidemment... à un moment donné, une fois qu'ils ont retrouvé l'endroit, qu'ils ont revu, etc., ils se recalent dans leur vie normale, c'est-à-dire que cette
ils
vie...
Ils admettent que la vie en question était antérieure.
Voilà, ils acceptent que c'était du passé, et ils se recalent dans leur vie actuelle.
Et est-ce que pour tout le monde, c'est pas une bonne chose d'arriver à identifier ce qui relève du passé pour pouvoir s'intéresser, si ce n'est à demain, au moins à aujourd'hui ?
Voilà, mais ça, on va y venir après. Ah. Tout à fait.
Parce après, justement... donc, ce que je viens de dire, ça sera du passé, d'accord. D'accord.
Bon, pour exemple, le cas de Parnod Sharma. À l'âge de 2 ans, il dit à sa mère qu'elle n'a pas besoin de lui préparer à manger, puisque sa femme peut le faire pour lui. Le gamin, il a 2 ans, hein. Imaginez la stupeur de la mère, quand même. Dès l'âge de 3 ans, dès qu'il est en âge de parler correctement, de se faire comprendre, dans tous les cas... Il explique qu'il était propriétaire d'un magasin d'eau gazeuse et de biscuits dans la ville de Moradabad. Il avait plusieurs frères et il est décédé à la suite d'une intoxication alimentaire causée par l'absorption de lait caillé. Donc des faits extrêmement précis.
Donc il sait qu'il ne veut pas manger de fromage. Donc en fait, quand les enfants nous disent « ça, j'en veux pas », alors qu'ils ne l'ont jamais goûté devant nous, quelquefois c'est à cause d'une vie antérieure. Lui, il sait que le lait caillé, ce n'est pas bon pour lui.
Ça va être ça, oui. Pas forcément, mais bon. Le goût se fait avec l'âge aussi, hein, vous savez. Un enfant qui n'aime pas quelque chose à 5 ans, on peut très bien l'adorer à 10.
On sent que vous avez de l'expérience.
Ah oui. Son père donc l'emmène en train à l'âge de 5 ans dans la ville de Moradaba où il prétend avoir vécu jadis. Depuis la gare, donc le petit Sharma dirige le conducteur du taxi jusqu'au magasin qu'il possédait autrefois. Et très souvent, les enfants...
C'est vraiment une biscuiterie.
Et généralement, les enfants sont tout à fait capables de reconduire ou d'aller dans l'endroit où ils ont vécu avant, mais sans se perdre, quoi, vraiment, avec une notion très très précise des lieux et de la manière d'y accéder. C'est très classique dans ce genre de cas. Donc, ils y vont en taxi. Là, il entre dans une grande colère parce que son tabouret de propriétaire, placé devant le magasin, n'est plus passé devant le magasin. Alors, la coutume locale voulait en effet que le tabouret du propriétaire soit toujours placé devant le magasin. Mais après son décès, ils avaient enlevé ce fameux tabouret. Voilà. Donc, déjà, ça le met en colère.
Oui, alors qu'il est décédé. Il ne devrait pas... Il n'y a aucune raison d'être en colère.
Oui, mais il est encore calé dans son esprit, dans cette vie antérieure, en fait. Il est encore dans ce personnage-là.
Quand vous avez dit qu'il était en colère, j'ai cru qu'il allait marchander le prix de la course en taxi, parce qu'il savait que dans une vie antérieure, c'était beaucoup moins cher que ça. Mais non. Là, on est dans le tabouret qui n'est plus au même endroit. OK.
OK. Donc, dans le but de mettre à l'épreuve la prétention de cet enfant à être l'ancien propriétaire des lieux, la machine à gazéifier l'eau est mise volontairement en panne. Donc malgré la complexité des manœuvres nécessaires pour remettre cette machine en marche, le petit garçon répare la machine en très peu de temps, comme seul quelqu'un qui connaît vraiment cette machine peut le faire. Donc c'était un élément de plus. Confronté à son ancienne famille, il reconnaît ses enfants d'alors. Donc, leur demande de l'appeler papa, ce qui ne doit pas forcément être évident quand t'as un môme de 3 ans en face de 5 ans en face de toi, de lui dire papa, hein, ça ne doit pas être du gagné quand même. Oui, comme s'il était encore son père, en fait.
Et en plus, s'ils ne veulent pas, il peut les engueuler. Il a 5 ans, il leur dit toi, dans ta chambre.
Non, par contre, il rencontre sa femme, enfin, donc son ancienne femme, celle qu'il avait à l'époque, et il se fâche dès qu'il la voit parce qu'elle ne porte plus les signes de son deuil.
Ah oui, là, ça pose un problème. Voilà. Donc un enfant de 5 ans qui engueule une femme parce qu'elle ne porte plus le deuil de son propre décès à lui.
Voilà, c'est ça. C'est...
D'accord. Et là, il y avait des scientifiques qui observaient tout ça.
Oui, parce que bon, tous les faits corroboraient, en fait, la machine à gazéifier, l'endroit, le nom des personnes, tout concorde. Je veux dire, ça, c'est vraiment des expériences qui ont été validées. Faire tomber volontairement la machine à gazéifier, l'eau en panne, et la réparer, ça ne s'invente pas. Un môme de 5 ans ne répare pas ça.
Oui, donc le scénariste, là, il n'y en a pas.
Non, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment... ça fait partie des 20 cas qui ont été vraiment prouvés, validés, vérifiés par des scientifiques, Stevenson et son équipe. Donc, il rencontre... vérification faite avec la famille. À l'époque, il avait effectivement plusieurs frères, puisqu'il avait dit qu'il avait plusieurs frères. Et il était en effet décédé à la suite d'une intoxication due à du lait caillé avarié. Donc, tout corroborait. Je veux dire, le môme, il ne peut pas inventer qu'il est décédé, qu'une personne est décédée à X kilomètres de chez lui à cause d'un lait caillé, ça ne s'invente pas. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de preuves comme ça. Alors maintenant, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Johan, qui est de voir si, en effet, c'est intéressant, qu'est-ce que ça peut apporter dans une vie présente. Alors, évidemment, on peut rentrer dans une notion de karma, d'évolution de la personne, etc. La théorie est la suivante. Je parle de théorie. Nous avons un chemin de vie avec des vies qui s'enchaînent où on a des choses à apprendre pour évoluer, pour voilà. Bon, ça c'est le concept général de la chose de la vie antérieure en général. Après, pour répondre à vos questions, donc, quels sont les intérêts au niveau de faire des régressions par des hypnotiseurs ou dans des conditions de relaxation profonde qui, à mon avis, ressemblent énormément aux conditions d'hypnotisme, d'hypnose d'ailleurs. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être soit justement essayer de régler quelqu'un qui retombe toujours sur les mêmes échecs dans sa vie, et peut-être il y a une raison qui peut venir d'un vécu antérieur, de quelque chose qu'il n'a pas réglé. Ça peut être aussi physique. Il y a un livre donc de deux personnes qui ont pratiqué énormément de régression sous hypnose et qui ont bon, ce livre a été écrit par le sujet lui-même, qui était totalement mais alors incrédule à ce type de choses au départ du reste, et qui a vécu cette expérience qu'il a fait avancer. Et bon, par exemple, on a quelqu'un qui va avoir, je sais pas, mal, je donne un exemple au hasard, mal ou sur le côté, mais de façon récurrente, qui consulte X médecins, spécialistes en tout genre, et évidemment, le corps médical ne lui trouve rien, puisqu'il n'a rien qui justifie une douleur. Et en fait, sous hypnose, avec une régression dans une vie antérieure, on se rend compte que au même âge, puisque cette douleur est apparue, par exemple, je vais dire 37 ans, cette douleur apparaît brutalement et ne le quitte plus. Ce qui est même empoisonnant quand même. Hein, dans le
genre, il a mal au côté droit, juste dans son bain.
Et non, en fait, permanence.
On s'aperçoit que c'est Marat et que Charlotte Corday est entrée dans la salle de bain.
On n'en est pas loin. En fait, il a reçu un coup de poignard à cet endroit-là. Et une fois qu'il a compris le pourquoi de ce séquel qui est resté dans son inconscient, puisqu'il s'agit d'inconscient là, hein, d'inconscient profond, à ce moment-là, bah, cette douleur disparaît. Donc c'est dans un but thérapeutique, cette régression.
Vous êtes en train de me dire qu'il y aurait un inconscient qui ne serait pas forcément personnel, qui ne serait pas forcément attaché à un corps, à un être vivant à un instant T.
Qui serait rattaché à l'esprit d'une personne, en fait. Cet esprit pouvant bouger d'un individu à un autre.
Ça me fait beaucoup penser, je ne sais pas pourquoi, hein, à des incantations, à des chamans, à des derviches tourneurs, à des gens qui cherchent à travers la transe à trouver un contact avec les esprits.
C'est autre chose. Là, bon, déjà...
Mais c'est une autre émission, d'accord.
Ils n'ont pas fumé que des cigarettes. Les transes, c'est quelque chose qui, pour moi, relève énormément de l'autosuggestion. Et donc, c'est... voilà. Je remets pas en doute ce genre de pratique parce qu'il y en a qui sont véridiques et
probantes. Non, mais moi c'est pas véridique, c'est cinématographique. Voilà. Quand on voit par exemple reconstituer des cérémonies d'Indiens d'Amérique du Nord qui cherchent à communiquer avec les esprits et avec ceux qui ont peuplé la Terre avant qu'ils soient là, etc.
Oui, ben là,
il y a cette philosophie.
Oui, on est dans la médiumnité, on n'est pas dans la régression dans des vies antérieures, c'est totalement différent. Là, on cherche à rentrer en contact avec des esprits de personnes décédées ou autres, et là, on est dans le cadre de la médiumnité, mise en condition avec tout un circobolus autour, quel qu'il soit, peu importe, ça n'a rien à voir avec la régression d'une personne dans une vie antérieure. C'est-à-dire que cette personne va chercher... C'est aussi utilisé pour les phobies, pour traiter les phobies. Et de plus en plus, quelqu'un qui va avoir une phobie, par exemple, de l'eau, mais quelque chose d'énorme, qui va vraiment, dès qu'elle est en contact avec l'eau, c'est la panique, l'angoisse, le stress qui monte.
En fait, il souffre de déshydratation.
Et non, pas vraiment. Mais en fait, on se rend compte qu'elle s'est noyée dans une autre vie.
Ah voilà. Ouais.
Voilà. Et la phobie, on la traite comme ça. Après, ça doit pas être pris comme un jeu non plus. Mais ça peut en effet aider certaines personnes qui se remettent systématiquement en politique d'échec, par exemple dans des vies de couple ou dans leur manière de s'engager dans la vie. Ça peut être dû aussi à un vécu antérieur. Le fait d'avoir conscience de ce vécu antérieur, bon, au départ, c'est alors il y a deux types de personnes, deux types de choses qui ont été remarquées. Bon, il y a la personne qui dit, ça y est, je détiens le savoir sur qui je suis, etc. Bon, et là, il part un peu en vrille, on va dire. Il fait comme Icare, hein, il monte tellement haut qu'il se brûle les ailes au soleil, il retombe dans la mer. Après, il y a le deuxième type de personne, c'est celui qui dit arrêtez, parce que là, je suis en train de prendre trop de choses d'un vécu passé. Et ce passé déboule un peu comme un chien dans un jeu de quilles dans la vie présente, quand même. Il faut être clair là-dessus. Donc après, il y a toute une reprise en main de l'identité propre de l'individu. Et ne peuvent faire ce genre de choses, il faut quand même être clair là-dessus, que des gens qui sont déjà bien ancrés dans leur vie présente, qui sont bien stables émotionnellement et psychologiquement, sinon ça part en... ça peut aussi être négatif. Mais ça peut être positif, justement dans le traitement de phobie, dans le traitement de douleurs qu'on n'arrive pas à enlever et qu'on n'arrive pas à, dont on n'arrive pas à déterminer une origine. Ça peut être aussi valable dans un traitement psychologique, dans la mesure où on va rechercher, ou pas psychanalytique, dans la mesure où on va aller rechercher les causes d'un comportement qui est récurrent chez une personne. Voilà.
Alors, je sais ce que vous allez me répondre, ma prochaine question. C'est un autre sujet, ça fera l'objet d'une autre émission, mais la psychogénéalogie, c'est-à-dire quand on n'est pas en train de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu sous l'apparence de notre corps, mais que la famille a transmis.
Oui, alors on rentre dans la psychogénéalogie et dans la connaissance universelle également, dont parlait Freud, Jung. Bon, c'était vraiment beaucoup de cas de retour dans des vies antérieures ont été examinés par Jung comme des cas justement de connaissance universelle. Voilà. C'est je prends un exemple, il y a une dizaine d'années, j'ai peint un tableau que j'avais appelé la caverne aux lutins. Et il se trouve que j'avais donc des lutins dans une caverne avec une position particulière de chaque petit lutin, machin, une entrée au milieu,
parce
une entrée à droite, etc.
Hélène, elle est voyante, mais elle peint des lutins aussi.
Voilà, absolument. Et donc je vais en Pologne et je visite la plus grande mine de sel d'Europe où sont reconstitués des tas de scènes en sel. Et tout d'un coup, je reste la bouche ouverte, les yeux à la Tex Avery, en me disant, mais cette scène, c'est celle de la caverne aux lutins que j'ai peint 10 ans avant, avec la même position des personnages, la même... Bon, alors, ça peut relever un effet d'une connaissance universelle. Cette connaissance universelle peut avoir été transmise par un patrimoine génétique, même lointain, qui a déjà été dans cet endroit, on ne sait pas. Je veux dire, après... Vous me connaissez, je reste quand même les pieds sur terre. Et je ne veux pas dire forcément, j'ai déjà vu ça, donc j'ai déjà été là. Donc cette scène, je l'ai peinte, mais c'est parce que j'étais en Pologne dans une vie antérieure. Je ne vais pas jusque-là.
Voilà. En fait, vous aviez vu une photo sur Internet.
Pas du tout. Pas du tout, puisque je ne savais même pas que cette mine a existé avant d'y avoir mis les pieds.
Bon. On va quitter les mines de sel. D'ailleurs, on va se séparer pour aujourd'hui. On
Absolument.
Va se retrouver dimanche prochain.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Hélène.
De rien, Jovan. Au revoir, à dimanche prochain. Tous les dimanches à 17h, CFM vous permettra de participer à une nouvelle émission, Les Sabots d'Hélène. Faites-nous part de vos expériences en matière de rêves prémonitoires, de médiumnité, de télépathie, d'intuition, et ceci en tout anonymat. Hélène, voyante, sera présente pour répondre à vos questionnements sur tous ces sujets. Pour nous joindre ou enregistrer votre témoignage, par téléphone 05 63 67 03 57, par courrier CFM boîte postale 16 82 160 Caylus, ou par mail les sabots d'Hélène, CFM, tout attaché, @gmail.com. Et à dimanche.